Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot, un rapport d'audit qui fuite et voilà de nouveau la CAF dans la tourmente depuis 48 heures. Selon les révélations de la presse anglo-saxonne, des millions de dollars versés par la FIFA à la Confédération africaine de football entre 2015 et 2018 auraient disparu, détournés pour un usage privé. La CAF dément par écrit et par la voix de son vice-président Constant Omari que nous écouterons. L'affaire fait grand bruit bien sûr, une dizaine de jours après le discours de Rabat où Gianni Infantino avait invité sans ménagement la CAF à faire jouer la CAN tous les 4 ans de manière à générer plus d'argent. Pour revenir sur ces deux épisodes, il y a dans ce studio un duo de journalistes de l'équipe. Étienne Moati, éminent fifologue, autrement dit grand connaisseur des arcanes de la FIFA. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Hervé Penaud, passionné de foot en général et de foot africain en particulier. Bonjour Hervé.
Bonjour, mais quel plaisir d'être avec Étienne. Fifalogue, j'avais jamais entendu ça, et ben c'est comme ça que je vais l'appeler maintenant. Le Fifalogue.
Gilles Verdez est avec nous également, pourfendeur du foot to business. Ça vous va Gilles?
Oui, et de mes collègues, s'il le faut, bonjour.
Bonjour.
Qui en douterait?
Et puis David Calfa, que vous lisez chaque jour sur le site RFI.fr. Bonjour David.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
David qui écrit notamment sur la CAF, comme elle va, ses bonnes, ses mauvaises périodes, pas mal de soubresauts quand même ces dernières années. Dans Radio Foot, il sera aussi question des matchs du week-end. Un PSG-Lyon riche en buts ce dimanche. À la fin, le PSG gagne encore 4-2. On analysera cette rencontre et on verra aussi ce qu'a fait le Borussia Dortmund, adversaire du PSG, dans un peu plus d'une semaine maintenant, en Ligue des Champions. Et puis, on gardera une petite place pour tenter de comprendre pourquoi Rennes, actuellement 3e de la Ligue 1, a subitement viré son président. Radio Foot, préparé avec David Finzel et Laurent Salerno, nous sommes ensemble pour 45 minutes plus le temps additionnel. Le New York Times, la BBC, l'agence de presse AP, ces médias internationaux ont donné au week-end de la CAF un tour bien particulier. David Calfa, au cœur du sujet, la situation financière de la Confédération. Un audit a eu lieu, ces médias ont eu accès au rapport, au moins une partie de ce rapport, et il en ressort que certaines sommes se seraient évanouies dans la nature.
Oui, d'après cet audit, la FIFA en fait a versé 51 millions de dollars à la CAF entre 2015 et 2018. Et sur ces 51 millions, en fait, 24 auraient été dépensés par des dirigeants du foot africain. Et les auditeurs de PwC ont par ailleurs passé au crible 40 paiements qui représentent un total d'environ 10 millions de dollars. Et sur ces 40 paiements, en fait, seuls 5 semblent suffisamment documentés. Quant aux 35 autres, eh bien, c'est un peu le mystère. Les auditeurs notent dans leur rapport qu'ils ont en tout cas eu le plus grand mal à bien travailler parce que les archives comptables de la CAF sont, je cite, « peu fiables ». Pas digne de confiance à cause notamment d'ajustements manuels.
On reparle aussi de la fameuse affaire Tactical Steel qui avait amené le président Hamad à répondre aux questions de la police française l'année dernière.
Oui, alors pour rappel, la CAF a signé un partenariat avec cette société française pour la fourniture d'équipements. Le tout à un tarif bien supérieur à ce que proposait l'entreprise Puma, avec laquelle la CAF était déjà sous contrat. Eh bien, les auditeurs de PwC ils considèrent que des transactions financières liées à ce deal entre la CAF et Tactical Steel présentent des irrégularités, je cite encore, très suspectes et évoquent même de possibles pots de vin.
Alors, avant d'écouter la défense de la CAF, un mot sur PwC, Étienne. PricewaterhouseCoopers, c'est un nom qui vous est familier, vous qui suivez la FIFA.
Qui m'est familier, je dirais pas ça, mais c'est un
mais
cabinet.
Il a travaillé déjà.
C'est un cabinet, et c'est un cabinet donc tout à fait sérieux. Après, quand vous faites un audit sur des comptes, vous trouvez toujours quelque chose. Mm-hmm. Quand vous avez trouvé quelque chose, la question est de savoir est-ce que vous le faites filtrer ou pas. Et de mon point de vue, c'est quand même surtout un moyen donc pour la FIFA de garder la main, puisqu'ils l'ont déjà donc sur la CAF, et que ce n'est pas quelque chose qu'ils auraient sans doute fait avec une autre confédération, puisque donc les rapports entre la FIFA, l'UEFA par exemple, dès que Gianni Infantino s'approche, bah, il prend un coup de règle sur les doigts, mais pas avec le football africain.
Alors, la CAF, on va lui donner la parole. On va d'abord écouter son vice-président, Constant Omari, qui était joint hier soir par Antoine Grenier. Constant Omari qui vise, lui, sans les citer, d'anciens dirigeants de la CAF.
Nous savons à peu près qui sont à la base de ces informations, des accusations fallacieuses qui ne sont pas du tout vraies, mais ça fait partie d'une campagne de dénigrement pour des raisons bien connues. Vous savez que, un, dans une année, il y aura des élections au niveau de la CAF. Deuxièmement, vous savez que nous avons, la CAF, demandé à la FIFA de nous accompagner dans les réformes que nous avions déjà nous-mêmes commencées. Et dans ce cadre-là, nous avions souscrit à ce qui est un audit, tout simplement parce que la CAF sortait d'un mode de gestion d'une trentaine d'années et nous pensions que nous avions besoin d'un audit pour nous permettre, bien sûr, d'asseoir nos réformes et corriger ce qu'il y aurait lieu de faire. Mais de prime abord, je peux vous confirmer que le contenu de ce qui a été publié est faux, il n'y a pas eu de détournement des fonds, et les jours à venir vous donneront un peu plus d'éclaircissement.
Voilà, donc en résumé, aucun détournement, tout est faux, et c'est une campagne de dénigrement motivée par l'approche de la prochaine élection présidentielle à la CAF. Alors, un premier commentaire peut-être avec Gilles Verdez.
C'est un complot. Quelle que soit l'issue, c'est un complot. Pourquoi, je vais vous dire? C'est un complot déjà sur la forme. Le complot sur la forme, c'est qu'il y a quelques jours, la FIFA entre dans la CAF, prend possession de la CAF, change les règles de la Coupe d'Afrique des Nations, dit voilà ce qu'il faut faire. Pour légitimer cette action en néocolonialisme, une semaine après, on fait filtrer un rapport dont on peut contester l'existence et les attendus, mais on fait filtrer ce rapport via la presse anglo-saxonne, qui est associée à la FIFA. On fait filtrer ce rapport pour dire aux instances africaines, voyez ce qu'on vous a dit il y a une semaine, vous allez l'appliquer, sinon tout va sortir maintenant. Et peu importe ce qui sort, je ne conteste pas le fond. Mais sur la forme, c'est une ingérence, un complot néocolonialiste.
Complot contre la CAF.
Absolument. Ourdi par les instances internationales du foot.
De la CAF. Hervé Penaud. Bah,
sauf si l'audit a été demandé par la CAF, comme l'a bien expliqué Constant Omari. Donc là, on ne peut pas dire que ce soit la FIFA qui se soit ingérée dans les affaires de la CAF. C'est la CAF qui a demandé à la FIFA de venir. Ça, c'est un fait précis. Hein, là, au moins, tout le monde est d'accord là-dessus. Après, pourquoi ils l'ont fait, ça, c'est un autre débat. Bon, non, mais ce qui est plus grave, c'est qu'on se rend quand même compte du dysfonctionnement de l'organisme. Aujourd'hui, depuis, soi-disant, il devait y avoir une nouvelle gouvernance. Et depuis que la nouvelle gouvernance est arrivée, on voit l'ancien monde au pouvoir. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, que ce soit une finale de Ligue des Champions, que ce soit pas terminée, rappelons-nous, ça, c'est quand même un moment grave pour le football africain, des changements de date, une Coupe d'Afrique des Nations qui devait venir en juin, puis à 24, puis à etc., 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 pour arriver finalement à une Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans, parce qu'il y a de fortes chances qu'on arrive là. Mais il n'empêche qu'on sent que même au sein même de la CAF en ce moment, c'est vraiment un capharnaüm, parce qu'il y a beaucoup de directions qui sont prises, tout le monde n'est pas du même avis, et il y a un vrai souci. Et là, c'est un petit peu le coup de la FIFA, effectivement, je rejoins là-dessus, c'est le coup de la FIFA pour à un moment dire, attendez, on a des dossiers sur vous, donc maintenant, il va falloir filer droit. Maintenant, j'espère aussi qu'à un moment, les dirigeants du football africain sauront réagir.
Étienne.
Ce qu'on a appelé le FIFA Gate il y a quelques années, donc sous la présidence de Sepp Blatter, c'était donc des détournements qui étaient faits donc on va dire sous l'égide de la FIFA dans des confédérations, mais pas uniquement dans la confédération africaine. Il y a eu des détournements qui ont été faits en Asie, en Amérique du Sud et même en Europe. Et on n'a pas vu dans ces continents-là.
Je crois que l'Afrique n'avait pas été touchée vraiment par le FIFA Gate.
Hein. Oui, c'est presque la seule confédération.
Oui, absolument.
Et on n'a pas vu donc dans ces confédérations-là la FIFA prendre totalement la main comme elle est en train de le faire en Afrique. Donc je rejoins avec un tout petit peu plus de nuances, mais c'est parfois pas difficile d'en avoir plus que Gilles. c'est quand même sur le fond ce qu'il dit. Évidemment, je pense que la gestion de la CAF, elle est loin d'être irréprochable. Maintenant qu'il y a évidemment une volonté politique de prendre la main donc sur la gestion du football africain pour des raisons diverses, notamment celle d'organiser le calendrier uniquement au profit de la FIFA et par exemple faire place nette au championnat du monde des clubs que Gianni Infantino est en train de monter. Et voilà, donc plus la FIFA prouvera qu'il y a des problèmes en Afrique, plus elle légitimera. Et là, je rejoins ce qui a été dit par mes deux collègues, donc son intrusion donc, dans la gestion de la CAF.
David, ce qui est assez étonnant quand même par rapport à tout ça, c'est que le 2 février dernier, des experts dits indépendants ont présenté une synthèse de cet audit au comité exécutif de la CAF. Ils ont beaucoup insisté sur les dysfonctionnements au niveau de la gouvernance, au niveau de l'organisation, de l'administration, mais ils ont très peu abordé en fait ces possibles détournements de fonds. C'est juste juste à la dernière page de leur synthèse à laquelle on a eu accès, qui disent que ce serait bien de continuer les investigations sur ces différents dossiers, notamment l'affaire Tactical Steel. Mais finalement, ils se penchent assez peu sur toutes ces histoires, comme si ça embarrassait aussi la FIFA. Et puis c'est normal que ça embarrasse la FIFA, mais puisqu'on parle d'argent de la FIFA qui aurait été détourné.
Mais il ne faut pas oublier quand même que c'est 54 voix. La CAF. Donc à un moment, ils ont un minimum de poids. Et ce poids-là, il faut le faire valoir. Il ne faut pas se faire écraser comme ça. Parce que je trouve que... Alors, ce que fait la FIFA, on peut le regretter. On peut même être scandalisé par certains aspects. Mais à côté de ça, je pense qu'il faut aussi que les gens du football africain prennent le pouvoir. C'est-à-dire que c'est à eux aussi de décider de leur destin et de leur avenir. Et le décider dans les meilleures conditions possibles. Et il n'y a pas nécessairement à avoir à faire appel à la FIFA dès qu'il y a quelque chose qui va mal. Mmh. En plus, l'histoire de la FIFA avec Fatma Samoura qui entre dans la CAF. Et puis après, Hamad se dit, bah, finalement, c'est peut-être une future candidate pour la présidence de la CAF. Même si, attention, les textes sont un peu particuliers. Mais ça, des textes, ça peut toujours se changer. Il n'empêche que maintenant, elle est mise légèrement de côté parce qu'on a un petit peu peur que ce soit peut-être une possible successeur de Hamad. Donc tout ça, on se rend bien compte que tout est flou. Et surtout, c'est que les dirigeants du football africain ne prennent pas le pouvoir qu'ils devraient prendre.
Alors pour compléter, juste avant de redonner la parole à Gilles, ce que disait David à l'instant par rapport aux recommandations dont on avait parlé à Rabat, il y a eu aussi l'épisode Budapest, où là, devant le congrès de l'AIPS, Infantino avait pris la parole aussi. Et là, il avait précisément parlé de la corruption et expliqué fermement que désormais, les fonds de la FIFA devaient être traçables.
Que ce soit la FIFA qui parle de corruption, c'est quand même pas mal.
Jusqu'au moindre dollar. Gilles.
Il y a une faille, une fissure au sein de l'argumentaire de nos deux amis de l'équipe. Je vais la mettre à jour. Par rapport à ce que dit Étienne, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on est dans de la politique. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que la FIFA est extrêmement sourcilleuse. Dès qu'il y a intrusion, ingérence du pouvoir politique dans une fédération, elle menace quasiment d'excommunication. Si le politique...
Elle le fait. Voilà. En Afrique, ça arrive souvent.
Si le politique se mêle de nos affaires, je menace, je vire cette fédération. Donc ça, c'est l'aspect politique qui, moi, me gêne. Or, la FIFA ne s'applique pas à ses propres règles, puisque là, elle fait de l'ingérence dans une confédération. C'est pire que tout. Elle renie ses statuts. Et deuxièmement, pour répondre à Hervé, il disait « l'ancien monde revient au pouvoir ». Mais quel ancien monde ? Moi, j'ai un point de vue plus politique là-dessus, et qui est, à mon avis, celui de beaucoup de nos auditeurs africains, en Afrique, sur le continent africain. C'est quel ancien monde dont on parle ? C'est pas l'ancien monde des responsables africains avant Ahmad Ahmad, d'accord ? C'est l'ancien monde, purement et simplement, du pouvoir blanc, s'ingérant dans les affaires africaines. C'est du néocolonialisme pur et simple. C'est honteux ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on dénie maintenant à nos amis africains le droit de régler leurs propres problèmes. Je trouve ça scandaleux.
Par rapport à ce clivage ancien-nouveau monde, on précise aussi, que, comme vous l'avez dit, David, on parle dans les fuites de la période 2015-2018, ce qui veut dire qu'on est aussi sur la fin de la période de la présidence, la dernière présidence d'Issa Hayatou.
C'est là-dessus que se retranche d'ailleurs la nouvelle Confédération africaine pour dire, en fait, ce sont les résidus de ce qui se passait avant. Et d'ailleurs, dans leur communiqué, ils en parlent. Hein. Texto. Donc, non, moi, je suis... Alors, bien sûr qu'il y a cette sensation de néocolonialisme, tout ce qu'on veut. Et puis ça, aujourd'hui, c'est un truc un peu simple à mettre en place. On sait que les gens vont réagir à ça. Mais moi, je pense que c'est oublier les erreurs aussi de la CAF, des dirigeants africains, des dirigeants de fédération. Parce qu'attendez, moi, je ne mets pas Hamad comme le symbole de tout ce qui se passe dans le football africain. Quand vous êtes le président d'une fédération, vous gérez votre fédération. On n'est pas en train de dire à Le Graët, s'il y a un problème avec Le Graët, la Fédération française de foot, on dit, ah, ce c'est Ferry, quelle pipe. Mais non, à un moment, il faut aussi gérer ses affaires courantes de manière la plus positive possible. On se rend bien compte quand même de tous les dysfonctionnements dans le football africain, notamment les clubs. Il y a eu des immenses clubs en Afrique qui aujourd'hui ne sont plus rien, et plein de choses comme ça. Donc il faut aussi balayer devant sa porte.
Là, on est en train de donner le sentiment qu'entre la FIFA et la Confédération africaine, il y a une opposition ancienne. Mais c'est tout le contraire. La CAF a toujours été donc pro-FIFA et pro-président de la FIFA. Que ce soit Sepp Blatter a toujours donc obtenu quasiment toutes les voix du continent africain. Et c'est le cas aussi de Gianni Infantino quand il a été élu pour la première fois et réélu. Maintenant, il est au début de son deuxième mandat. Donc il profite de ce moment-là pour avoir davantage de pouvoir et mettre en place donc ce qu'il veut d'un point de vue économique. Mais plus l'élection approchera et plus les dirigeants, en effet, là je rejoins Hervé, des différentes fédérations africaines doivent retrouver une forme de pouvoir parce qu'il y a la menace de l'élection.
David, ce qui est intéressant aussi, c'est que quelque part, la FIFA profite de la faiblesse de la CAF pour expérimenter peut-être quelque chose de nouveau. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, il est dans une logique de centralisation du pouvoir, de remise en ordre du calendrier des compétitions internationales.
Mais c'est un laboratoire.
Et voilà, et il se sert de la Confédération qui est la plus en crise actuellement, puisque peut-être justement parce que les autres ont dû faire un petit peu plus le ménage au moment du FIFA Gate, celle qui traverse une crise, pour expérimenter, je ne sais pas, une manière de gérer le football sur un continent. Voilà.
La FIFA en général, et Gianni Infantino en particulier, si vous ne leur résistez pas, ils vous mangent. Gianni Infantino, même avec l'Europe, il a essayé donc là depuis qu'il est à la présidence de la FIFA de tenter un peu des incursions au niveau économique, essayer de monter justement donc ce championnat du monde des clubs en allant voir directement les grands clubs européens sans passant par l'UEFA. Mais il a trouvé quand même une résistance avec Alexandre Seferin, donc le Slovène qui en est devenu le président, avec les fédérations européennes qui ont du pouvoir en Amérique du Sud aussi. Donc ils se sont beaucoup émus, donc qu'ils contactent directement les grands clubs sud-américains. Donc il y a une forme de résistance. Et c'est vrai qu'en Afrique, jusque là, ils trouvent pas la résistance qui serait nécessaire donc pour avoir davantage de pouvoir et d'indépendance.
Et au contraire, plus que, c'est pas de la résistance qu'ils trouvent, c'est des gens qui l'accueillent avec bienveillance. Et là, c'est plus ennuyeux et plus dangereux en fait pour le futur du foot africain. Et même ce qu'il a proposé, la manière dont il a parlé, même à Rabat là, la manière dont il s'est exprimé avec une forme de condescendance assez étonnante, ça aurait dû faire réagir. Mais il paraît que ça a fait réagir certains quand même. Il y a certains présidents de fédération qui ont trouvé quand même cette manière de s'exprimer un petit peu tendancieuse. Pour le moment.
Ouais, étonnante aussi, il avait aussi évidemment en tête le contenu de l'audit et c'est peut-être aussi pour ça qu'il en a profité pour se montrer virulent et cassant.
Gilles. Après, ce qui me gêne, c'est quand vous faites des dons, surtout au niveau d'une instance transnationale, même transcontinentale comme la FIFA, vous êtes responsable de la traçabilité de vos dons. C'est pour ça qu'à mon avis, c'était un piège mortel dès le début. C'est-à-dire que ces 40 paiements pour 10 millions de dollars dont on a retrouvé, David le disait, trace que pour 5, pour 1,6 million de dollars. Mais tous les autres, les 35 autres, comment ont-ils été donnés? Il y a l'opacité du don initial. Mm-hmm. À mon avis, c'était volontaire. C'était déjà un piège ourdi pour faire tomber la CAF.
Non, mais on peut pas dire quand même, Gilles, que...
C'est la théorie du complot.
Particulièrement machiavélique. On peut pas dire quand même que la FIFA verse de l'argent à toutes les fédérations mondiales uniquement dans le but de les piéger derrière.
Donc,
c'est quand même un petit peu...
Alors Étienne, allez au bout de votre logique. Donc ils versent 10 millions de dollars sans contrôler le flux, alors que précisément la CAF était sous tutelle de la FIFA quasiment.
Non, ils n'ont jamais été sous tutelle.
Ils sont sous tutelle depuis un moment, vous le savez très bien.
Non, on ne peut pas dire ça non plus.
Ils sont sous quoi? Sous vigilance extrême.
Non, donc c'est pas eux qui décident quand même où vont les fonds de droite et de gauche. D'accord.
Ah d'accord, donc la FIFA ne veille pas à la destination des fonds qu'elle fournit.
C'est compliqué.
Ah ben voilà un nouveau scandale.
Non, mais c'est compliqué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous donnez de l'argent, vous laissez libre, entre guillemets, libre cours aux gens à qui vous donnez de l'argent de le dépenser, je ne dis pas comme ils le veulent.
Au niveau de la FIFA, j'ai jamais vu ça.
Non, mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas des gens de la FIFA qui décident, une fois qu'ils ont donné de l'argent, de s'occuper de tout. Malheureusement, peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'allais dire heureusement, parce qu'il faut quand même laisser la latitude aussi aux dirigeants de décider un peu ce qu'ils feront de cet argent-là. Et la preuve, s'il y a eu ce fameux audit, et avec les résultats qu'on a visiblement aujourd'hui, ça prouve bien qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passait. Donc s'ils ne sont pas au courant de ce qui se passait, ce n'est pas eux qui géraient.
Parce que le piège était parfait.
Prochain événement prévisible, épisode prévisible, en tout cas dans cet enchaînement d'événements, eh bien, le 14 février, dans 4 jours, la CAF annonce qu'elle tiendra en marge de la Supercoupe d'Afrique au Qatar, un comité exécutif pour reparler donc des recommandations de la FIFA. On va revenir maintenant, comme on l'avait annoncé, sur les propositions d'Infantino. Certains diront les injonctions concernant la CAN et la volonté du président de la FIFA de la faire jouer maintenant tous les 4 ans et non plus tous les 2 ans. Vous savez que l'émotion a été grande en Afrique, on en a beaucoup parlé de ce côté passionné et passionnel parce que tous les amoureux du foot africain sont habitués à suivre la CAN tous les 2 ans, parce que le lien entre les Africains et la CAN est beaucoup plus fort, très très particulier, beaucoup plus affectif aussi que celui entre les Européens et l'Euro ou entre les Asiatiques et la Coupe d'Asie. Et donc au-delà de ce côté émotionnel et passionnel du débat, on a voulu rediscuter à tête reposée ici des propositions économique lâché par Infantino il y a 9 jours à Rabat.
La Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui génère 20 fois moins que le championnat d'Europe. Est-ce qu'on est vraiment convaincu que d'avoir une Coupe d'Afrique des Nations tous les deux ans, surtout avec 24 équipes, c'est bien au niveau commercial? Donc, c'est votre décision. Mais ce que je vous demande de discuter et de réfléchir, c'est de passer la Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans au lieu de tous les 2 ans.
Alors, Infantino a ajouté aussi dans le même discours qu'en jouant tous les 4 ans, les revenus de la CAN pourraient être multipliés par 4, voire 6. Avant d'en discuter entre nous ici, je vous propose d'écouter deux économistes, deux points de vue. D'abord, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Nous lui avons demandé si les chiffres avancés par Gianni Infantino étaient crédibles.
Une CAN tous les 4 ans, c'est la volonté de créer de la rareté. Et en créant de la rareté, quel que soit le secteur d'activité, on a tendance à créer de la valeur. Effectivement, si le titre de champion olympique ou le titre de champion du monde était décerné tous les ans, il serait plus facile, entre guillemets, à obtenir et il aurait une valeur moindre. C'est bien parce que je peux être champion d'Europe, champion du monde, champion olympique une fois tous les 4 ans que ça crée une valeur sportive. Et avec la valeur sportive, il y a une valeur économique qui y est associée. Et donc, oui, à ce niveau-là, il a raison. Maintenant, l'effet multiplicateur, il y a matière à développer, il y a matière à créer de la valeur. Il y a une marge de progression très importante en Afrique, c'est vrai. Maintenant, faut voir et faire attention aux chiffres que l'on avance.
Voilà, l'idée maîtresse généralement chez les économistes, c'est donc que plus un événement est rare, plus il est cher. Et c'est un principe qu'il faut nuancer selon un autre économiste qui s'appelle Pierre Rondeau et qui est consultant chez nos confrères d'RMC Sport.
Quand on regarde l'historique des grandes compétitions sportives, c'est plutôt l'inverse qui s'est opéré. C'est plutôt en réduisant le temps d'attente qu'on a pu augmenter, en tout cas qu'on a espéré augmenter les gains médiatiques et les gains économiques. L'exemple le plus récent, par exemple, c'est que la FIFA a demandé comme projet parce que dorénavant, la Coupe du Monde féminine n'est plus lieu tous les 4 ans, mais lieu tous les 2 ans. De la même manière, les Jeux Olympiques d'été et d'hiver, initialement, avaient lieu tous les 4 ans, puisque la même année, l'été, les JO d'été, et l'hiver, les JO d'hiver. Et à partir de 92, le CIO a aussi, pour espérer augmenter ses gains économiques, réduit ce temps d'attente de 4 ans à 2 ans, en simplement permutant les JO d'été et les JO d'hiver. Donc, l'argument de dire augmentons le temps d'attente, passons de 2 à 4 ans pour augmenter les recettes d'exploitation, les recettes de médiatisation, les recettes économiques et globales, me semble encore une fois assez fragile, dans la mesure où l'histoire nous montrerait plutôt que c'est en réduisant le temps d'attente de 4 à 2 ans qu'on espère augmenter les rentrées et les recettes économiques.
Voilà, Pierre Rondeau. Donc la question, une CAN tous les 4 ans, est-ce que ça rapporte forcément plus d'argent qu'une CAN tous les 2 ans?
Je pense que c'est une histoire pour endormir les enfants, ça. Comment on peut imaginer...
L'histoire racontée par Gianni Infantino?
Ah bah absolument. Est-ce que la raison, c'est celle-là? Évidemment que non. Et comment on peut imaginer, donc, en organisant une CAN tous les 4 ans, vous allez générer plus de revenus que si vous l'organisez tous les 2 ans? Je pense que vous donnez l'équation à un enfant de 10 ans, il va réussir à comprendre que finalement, vous avez 2 fois plus de chances de faire des recettes si vous avez 2 compétitions plutôt qu'une. Évidemment, bon... Les histoires de la rareté, allez, ça peut jouer, mais de mon point de vue, à la marge. Si vous prenez par exemple le championnat d'Europe des Nations, il est organisé tous les 4 ans. Si vous l'organisiez aujourd'hui, tous les 2 ans, est-ce que vous ne pensez pas que l'UEFA ramasserait encore plus d'argent dans sa compétition? Bien sûr que oui. C'est-à-dire, c'est quasiment évident. Ce qu'il faut dire, c'est que bon, Gianni Infantino, il lance des chiffres comme ça à la volée. Mais la motivation n'est évidemment pas pour que la CAF génère plus de recettes avec sa CAN. La motivation, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est donc alléger le calendrier international et dégager donc une des 2 CAN pour qu'elle ait lieu tous les 4 ans, de manière à ce qu'on puisse y organiser d'autres compétitions sous l'égide de la FIFA. On en a parlé tout à l'heure. C'est son championnat d'Europe des clubs, des championnats du monde des clubs.
Gilles,
je suis entièrement d'accord. Regardez la Formule 1. Le championnat du monde de Formule 1, tous les ans, ça génère de plus en plus de business. Les tournois du Grand Chelem en tennis, on va pas les mettre tous les 4 ans. Les grands matchs de boxe, c'est quand ils arrivent. Donc, c'est pas vrai que la rareté génère de l'argent. C'est justement l'accoutumance à une compétition qui crée son addiction. C'est-à-dire que on a envie de voir la CAN. Si on pouvait avoir l'euro tous les 2 ans plutôt que les compétitions souvent de très petites factures qu'on nous inflige pour remplir le calendrier, ça marcherait beaucoup mieux. Donc, effectivement, c'est uniquement un argument politique de gestion du calendrier, argument fallacieux que de dire que ça ne rapporte pas assez, que ça rapporterait plus. encore une fois, c'est l'ingérence néocolonialiste de la FIFA dans les affaires africaines.
Ça sert à tous les coups, ce coup-là. Hein. L'ingérence néocolonialiste, ça peut être servi à toutes les sauces.
Ce qui m'étonne,
On est d'accord sur le fond. Maintenant, il y a aussi un élément qui peut être aussi le.
Ce qui m'étonne,
joueurs,
c'est que vous laissiez passer sans le dénoncer.
Non, mais on dénonce aussi, comme toi, Gilles, on essaye à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Évidemment, on est beaucoup moins intelligent que toi.
Mais j'ai jamais prétendu
ça. Mais pour dire les choses, il y a quand même aussi un élément, là, pour le coup, qui peut jouer, c'est si les Européens ne font pas un championnat d'Europe tous les deux ans, c'est aussi parce que les joueurs, il y a une limite aussi dans le nombre de matchs qu'ils peuvent faire. Les grandes compétitions, c'est extrêmement prenant du point de vue humain. Donc, de ce point de vue-là, une CAN tous les quatre ans, ça peut aussi avoir des avantages pour soulager un peu ces joueurs-là.
Parce que dans le discours d'Infantino, il ne faut pas oublier deux choses. Alors, il y a l'histoire, on va gagner 4 à 6 fois plus. Alors, moi, je le prends au mot, bien voir, puisque c'est ce qui va se passer. De toute façon, ça passera tous les quatre ans. Il y a de fortes chances. En tout cas, il y a de fortes chances. Bon, espérons qu'il y aura encore assez de résistance. Enfin, espérons.
Certains se demandent si quand même il y a eu une étude de marché qui étaye ce projet, cette vision.
D'autant plus qu'ils avaient minimum 50 millions de dollars par CAN qu'ils devaient récupérer.
En fait, la dernière CAN, elle a généré 83 millions de dollars. Bon. Sur ces 83 millions, 50 millions viennent des recettes marketing et médias.
C'est obligatoire, c'était minimum 50 millions.
Ouais. Il y a 20% déjà des recettes ensuite qui vont aux pays hôtes, 20 millions qui vont, c'est le prize money pour les différentes équipes. Donc c'est vrai qu'il ne reste pas grand-chose à la CAF. Donc de 83 millions de dollars pour cette CAN au 1,93 milliard dollars ou d'euros, je crois, qu'a généré l'eau 2016, c'est vrai qu'il y a une marge. Mais on parle quand même de plus que doubler les...
Attention, en plus, ils vont dissocier. Mais dans la FIFA, veut que les droits marketing et les droits médias soient dissociés. Donc alors, c'est à eux d'aller chercher et générer cet argent-là. Moi, je veux bien les prendre au mot. On va voir s'ils arrivent à faire 4 à 6 fois plus que ce qui se fait aujourd'hui. Le dire, c'est déjà souligner que je suis un petit peu sceptique, parce que ça paraît quand même une équation très compliquée à gérer. Mais par contre, dans ce qu'il dit, il y a un deuxième élément qui est important à mon avis, et qui était l'erreur originelle, à mon avis, de tout ce projet de la nouvelle CAF, c'était de passer donc, en juin, mais ça on pourra en discuter, mais surtout à 24. Parce que 24 équipes, évidemment, c'est une semaine de compétition en plus. Donc une semaine de compétition en plus, quand déjà ça ennuyait pas mal les équipes européennes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut parler des joueurs aussi, parce qu'une CAN, c'est constitué surtout de joueurs, c'est eux qui viennent faire vibrer les foules. Et malheureusement, il y a plein de joueurs qui ne pouvaient même plus faire des CAN parce qu'ils avaient une pression incroyable de leur club en Europe. Donc c'est pour ça qu'ils l'avaient passé en juin. Ils se sont dit, on va le mettre à 24. Mais à partir du moment où on le remettait 24 en janvier, ça fait une semaine de compétition en plus. Et c'est énorme, attention, hein. c'est pas rien. Et ça veut dire que vous pouvez perdre des joueurs sur 5-6 semaines. Ça ajoute pas. Alors, il faut voir que la FIF Pro, par exemple, est pour cette CAN tous les 4 ans, parce que pour eux, ils disent, c'est le syndicat mondial des joueurs, parce qu'ils se disent comme ça, il y aura moins de matchs pour les joueurs. Mais quand la CAN avait lieu, par exemple, en juin, ça ajoutait des matchs à ces joueurs-là. En revanche, quand la CAN a lieu en janvier, ça ajoute pas spécialement des matchs, parce que janvier, déjà, un calendrier très chargé dans les pays européens, et il n'y a pas guère plus de matchs parce que vous jouez une CAN que parce que vous jouez des matchs de championnat ou de coupe dans les divers championnats européens.
David. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'époque du symposium de Rabat, donc lorsqu'il était question de réformer la CAN, nous, on avait fait un sondage. Il y avait quelque chose qui était très clair. Les internautes donc, avaient voté à 75% pour une CAN tous les deux ans et pas tous les quatre ans. C'était le seul élément sur lequel il n'y avait aucune ambiguïté. Ils étaient plutôt favorable à une CAN en juin-juillet. C'était très mitigé sur l'augmentation du nombre d'équipes, mais par contre, c'était clair, ils voulaient d'une CAN tous les deux ans, pas tous les quatre ans.
Et parce qu'il faut bien se rendre compte, le lien qu'a la CAN avec les gens qui habitent en Afrique.
C'est
sociétal, quoi. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre.
Gilles, un dernier mot sur ce sujet.
C'est le football de sélection qui est en train de mourir sous les coups des instances au profit du football de club. Et en Afrique, effectivement, c'est le football de sélection. Par esprit, j'allais dire patriotique, mais la fibre patriotique au bon sens du terme, par sens de son pays, parce que ça représente, par l'impact des sélections sur la vie entière du pays. Et ça, on est en train de le bafouer pour des intérêts mercantiles. C'est ce qui me révolte.
Oui, mais il y a quand même des nouvelles compétitions qui ont lieu avec des équipes nationales, que ce soit la Ligue des Champions. Là, l'idée aussi, c'est de réintroduire une compétition qui serait l'équivalent de la Ligue des Champions Ligue des Nations européennes en Afrique. Donc, c'est pas complètement la mort des sélections non plus.
Bon, le débat est loin d'être clos. On va en reparler dans les semaines, dans les mois, peut-être même dans les jours qui viennent. Allez, on en vient au terrain et à cette Ligue 1 qui a connu une belle soirée ce dimanche, un affrontement entre les deux derniers représentants du championnat de France en Ligue des Champions. Le PSG a battu Lyon 4-2.
Oui, il est bon, il est très bon ce ballon pour Katoko Ekambi. Katoko Ekambi qui va la donner et Lyon qui se relance totalement, absolument, avec ce but de Moussa Dembélé. Les Lyonnais qui étaient menés 3-0 et qui reviennent à 3-2 et du temps lyonnais pour croire à l'exploit côté lyonnais. On a Di Maria Cavani et Edinson Cavani, 199e but.
Joli match avec un PSG qui mène 3-0, qui traverse ensuite un trou d'air en début de deuxième période. L'écart se réduit à 3-2 avant que Cavani mette son équipe à l'abri. Tiens, on va commencer par parler de l'Olympique lyonnais parce que bah, ils ont pu y croire à un moment donné dans ce match. Hervé Penaud, à 2 semaines de leur 8e de finale de Ligue des Champions contre Turin, l'OL a connu au moins, a entreaperçu un bon résultat, un match nul.
Bah, ce qui paraît incroyable, hein, parce qu'ils étaient quand même menés 3-0, 3-1, 3-2, et puis il y a une occasion assez invraisemblable de Dembélé qui frappe, mais c'est sa reprise juste au-dessus de la transversale, et donc qui rate cette égalisation qui semblait lui tendre les mains. Et ça paraît bizarre, parce que Lyon avait quand même été en grande, grande difficulté face à un Paris Saint-Germain qui maîtrisait la situation. Donc ça dit autant des difficultés du Paris Saint-Germain parfois à gérer un score, parce que là ils ont été vraiment mal derrière, que la possibilité pour Lyon aussi d'être capable de revenir dans des matchs même où il est en grande difficulté, ce qui sous-entend un état d'esprit et quelque chose. Il y a aussi quelque chose dans cette équipe. Moi, j'ai trouvé que Lyon, si vous voulez, avait fait le match qu'il fallait faire pour lui, parce que il y a guerre de moyens par rapport au Paris Saint-Germain. Individuellement, il y a certains joueurs qui sont vraiment trop en dessous pour rêver à des conquêtes futures. Mais ils ont vendu chèrement leur peau, sachant qu'ils prennent 2 buts quand même un peu ridicules.
Ouais. Alors, pour voir ce que les Lyonnais et comment les Lyonnais ont vécu leur propre performance, je vous propose un qui a pas été trop mal hier. Karl Toko Ekambi.
Il y a de la frustration parce que je pense que à 3-2, ils paniquaient. Et voilà, on a eu les occasions pour mettre le 3e but, on ne l'a pas fait, on a été puni simplement. On sait qu'au début de la saison, on ne coche pas 3 points sur un déplacement au parc. Maintenant, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on avait la possibilité d'en ramener au moins un. Donc voilà.
Ouais, Karl Toko Ekambi. Au micro de Tom Rossi hier soir au Parc des Princes, il a fait une bonne entrée, Karl Toko Ekambi, Gilles.
Alors, pour moi, globalement, la performance ou la prestation lyonnaise, c'est un leurre. C'est-à-dire que s'il faut être mené 3-0 pour se réveiller, ça va devenir difficile. Donc il y a eu effectivement un quart d'heure au début, et puis au moment du changement, du double changement à la 56e avec l'entrée de Toko Ekambi notamment, il y a eu une sorte de regain de confiance, de rythme, de générosité lyonnais. Mais je trouve que c'est quand même une prestation assez inquiétante avant la Ligue des Champions qui illustre bien les difficultés de Lyon, tout juste première moitié de tableau en championnat. C'est pour moi plutôt une soirée noire pour l'OL. J'y vois peu de motifs d'espérance.
Oui, c'est Etienne. Vrai, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Gilles. Finalement, la réaction lyonnaise, elle arrive quand le Paris Saint-Germain donc, est à une saute de concentration, un manque d'envie, pense que le match est plié. Et c'est vrai que là, je suis d'accord avec Hervé, Lyon est capable de développer un football franchement qu'on ne lui avait pas vu faire depuis longtemps, puisque sur les dernières parties, on ne peut pas dire que c'était brillant au niveau du jeu. Maintenant, le résultat, il est terrible. Il est terrible en vue de la Ligue des Champions. Quand vous affrontez de façon la Juventus, vous avez quand même peu d'espoir. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est au niveau statistique pour le championnat, parce que vous êtes à 16 points de Marseille, qui est deuxième. Vous êtes à 8 points de la troisième place du podium, donc pour la Ligue des Champions. Donc vous avez déjà votre saison en trompe-l'œil, parce que vous êtes encore qualifié partout. Mais vous pouvez dans aller très peu de temps n'être plus qualifié de nulle part.
Oui, mais ont du mal contre les gros quand même. Enfin, les
oui, Rudy sûr. Garcia oui, surtout. Oui.
Rudy Garcia.
Oui, Garcia plus l'équipe. Effectivement, ils n'ont pas une victoire contre les 10 premiers du championnat à l'époque où ils les rencontraient. Hein. Non, ils étaient dans les 10 premières places. Non, c'est un peu inquiétant évidemment par rapport aux ambitions de Lyon en début de saison. Mais je crois que la saison était mal embarquée dès le départ avec tout ce changement, remue-ménage, l'arrivée de Silvinho, l'arrivée de Juninho, après le changement d'entraîneur où ils décident de prendre un entraîneur. Alors, j'enlève pas des compétences de Rudy Garcia, mais simplement l'entraîneur qu'il ne fallait pas pour Lyon à ce moment-là, puisqu'il est détesté dans la ville. Donc, vous avez réussi. Au moment où vous changez un entraîneur, logiquement, ça doit donner un souffle nouveau aussi bien aux joueurs qu'aux supporters, qu'à ceux qui suivent le club. Et là, vous avez réussi à enfoncer encore un peu plus la tête, parce que c'était encore pire qu'avec Bruno Genesio, qui n'était pas déjà l'idole de certaines foules lyonnaises. Donc, et tout ça fait qu'on a l'impression que c'est mal embarqué. Pourtant, ils ont fait un mois de janvier intéressant. 6 victoires, une qualification en finale contre Lille, finale de la Ligue la Coupe de la Ligue. Maintenant, il va falloir. Là, ils n'ont pas d'autre choix que mercredi contre Marseille gagner. Parce que là, s'ils perdaient contre Marseille, attention, là, ça pourrait bouger du côté de Lyon.
Par rapport à la Ligue des Champions, Lyon a encore un petit peu de temps. Mais pour le PSG, par contre, c'est dès la semaine prochaine. Les huitièmes de finale aller, on en salive à l'avance. La Ligue des Champions va revenir avec notamment ce PSG Borussia Dortmund. Alors, le PSG qui jouait hier sans pas mal de titulaires, de joueurs qu'on reverra, à commencer par Neymar, dès la semaine prochaine sur le terrain. Le PSG qui a, on pourrait dire, délégué devant la caméra de Canal+, hier soir, son manager, Leonardo, qui nous a fait un joli numéro d'une dizaine de minutes.
Il avait un message à passer.
Il avait un message à passer. Et Laurent Salerno a essayé de synthétiser ce message qui vise à rassurer les populations.
Il y a toujours le moment qui arrive, le huitième de finale de Champions League, ça commence un peu le même procès, non? Alors on commence à dire un peu de choses, bon ça, cette équipe elle est pas prête. J'ai entendu même que la Ligue 1 elle est pas au niveau pour préparer le Paris Saint-Germain pour la Champions League. L'équipe aujourd'hui elle est première avec 12 points d'avance. Bon, Champions League a fait presque le maximum, c'est 5 victoires et un match nul. On a un effectif incroyable. Pourquoi qu'on doit être avec cette préoccupation du huitième de finale de Champions League? Je n'aime pas parce que ça commence à créer une négativité. Ah, ça marche pas. Là, c'est pas bien. Et le club, c'est pas géré. Je pense qu'on a sorti de cette situation d'être, ouh là là, si on perd, on est mort. Non, on joue pas la vie, la mort. On a des joueurs formidables. Neymar aujourd'hui, il est très heureux. Je pense que c'est un joueur fantastique. On est content de l'avoir. Comme on est content d'avoir Mbappé. Content. Parce qu'il y en a deux, et le quatre, des les meilleurs joueurs au monde. Il y en a peur de quoi? C'est la joie de foot. Et là, c'est merveilleux de l'avoir. Et je veux vivre la joie de ça.
Non, pas le problème qu'il a dit, qu'il a fait, pourquoi pas.
Ça, les gens, ils sont déjà fatigués de tout ça. Oh.
Ouais. Joli numéro, hein, Gilles.
Il est bon. Alors, c'est beau, mais c'est faux. Parce que quand il dit on joue pas à la vie à la mort en Ligue des Champions, tout le PSG sait que c'est l'année ou jamais. Franchement, il y a une dispersion des forces. Il n'y a pas de favoris. Il y a des grosses équipes en crise. Il y a un espace terrible à prendre. Neymar et Mbappé vont pas rester encore un temps indéfini. Un des deux va partir, sans doute. Donc voilà, c'est l'année ou jamais. Il le sait très bien. Mais moi, je me souviens, il m'avait appelé quand il était revenu la première fois sous l'égide du Qatar. Il m'avait dit, mais comment on peut faire pour être aimé? Je comprends pas. Tout le monde nous déteste. Tout le monde déteste le PSG. Comment on peut faire pour être aimé? Et c'est tout son truc, supprimer la négativité, être apaisé, essayer de devenir un club normal. C'est tout son discours, mais c'est le PSG. Il sait très bien que ce sera jamais un club
mais
normal.
Mais quand il dit négativité, c'est le côté français. Il a pas un peu raison au fond quand même?
Oui, moi je pense moi qu'il a raison. Parce qu'à un moment, lui, il défend son club, il défend son institution. Oui. Ça, c'est tout à fait normal. Quand Gilles dit c'est l'année ou jamais, ça, faut jamais s'avancer.
Jusqu'à l'année prochaine.
Oui, l'année prochaine, on dira la même chose.
Il y aura plus Neymar.
On disait déjà ça l'année dernière.
Voilà, exactement. Et Chelsea a
sans
gagné.
Sans Neymar ou Mbappé, ce sera plus dur, Hervé.
Mais,
désolé.
Oui, mais Chelsea a gagné la Ligue des Champions avec sa plus mauvaise équipe. Donc, ça, vous savez, des fois, vous êtes jamais sûr de votre coup. Hein. Mais non, lui, il a besoin à un moment, effectivement, d'apaiser tout ce qui se passe autour de ce club. Et il sent une chose qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que même lui, à l'intérieur du club, il se rend bien compte que ce huitième arrivant, ça y est, tout le monde commence à se poser des questions. Vous êtes contre Lyon, vous avez failli prendre 3 buts coup sur coup, ce qui est quand même pas rien. Il y a Haaland qui arrive à Dortmund, ça va être terrible. Etc.
On va en parler de Dortmund.
Donc, ouais. Donc, il a besoin d'un seul coup d'essayer d'apaiser les tensions. Maintenant, n'empêche qu'il a l'obligation d'aller loin en Ligue des Champions, il le sait.
Il est très bon, mais il est juste dans son rôle. C'est heureusement donc qu'il y a aujourd'hui un dirigeant au Paris Saint-Germain qui est capable de venir devant des micros et de dire des choses comme ça, aussi simples, avec du crédit, parce que c'est un ancien grand joueur, c'est un dirigeant qui a fait ses preuves, et c'est quelqu'un qui, en termes de communication, avec le sourire, mais avec la fermeté qu'il sait aussi utiliser, est très bon et tout à fait crédible. Ça me paraît la moindre des choses, avant une grande échéance comme ça, d'essayer de calmer un peu le jeu, mettre un peu de sourire, un peu de décontraction. C'est évidemment pas si facile que ça au Paris Saint-Germain d'en mettre un peu, et lui, il apporte quand même une image positive à ce club.
Dans le contenu du match quand même, comme contre Nantes, le PSG était largement maître du match, et puis un passage à vide qui permet à l'adversaire de reprendre espoir.
Oui, mais moi je suis plutôt finalement rassuré par la performance même d'hier du Paris Saint-Germain, parce que je les ai vus faire des choses en première mi-temps avec un niveau de jeu quand même extrêmement intéressant, très très puissant, un jeu collectif très bien huilé. Donc ils m'ont impressionné. Il y avait en effet pas tous les meilleurs joueurs qui étaient là. Alors après, évidemment, les sautes de concentration, ça peut être extrêmement pénalisant en Ligue des Champions, mais je les pense capables donc de ne pas les avoir quand vous affronterez donc Dortmund, et derrière on l'espère d'autres grosses cylindrées européennes. Et quand vous ajouterez Marquinhos, Thiago Silva et Neymar à cette équipe là bon, je pense quand même, comme Leonardo, qu'on peut être plutôt confiant et souriant.
Pas de négativité alors ?
Non, moi j'aime pas la négativité, tu me connais.
Je suis d'accord s'il ne s'agit que de déconcentration. J'y vois personnellement parfois une pointe de suffisance. Et là, c'est plus compliqué la suffisance, parce que la suffisance, vous pouvez pas la juguler parce qu'elle est en vous. Et j'ai un peu peur, parce qu'on va parler de Dortmund, que cette confrontation, double confrontation face à Dortmund, dans l'esprit des joueurs du PSG, ce soit une sorte d'aimable régalade du festival du football offensif, que le PSG forcément gagnera. J'en suis moins certain.
Alors, on y vient à Dortmund. Merci pour la passe. Sale semaine pour le club allemand qui, mardi, s'est fait sortir de la Coupe d'Allemagne, battu par le Werder de Brême. Et samedi, en championnat, a été battu à Leverkusen 4-2. On a vu, surtout, une grosse fébrilité des défensives. Comment expliquer que ce club qui avait débuté l'année 2020 de manière idéale, en enchaînant les gros scores, 3x5 buts marqués, en soit là.
Bon, après, c'était contre des équipes de milieu de classement de Bundesliga. Historiquement, Dortmund a toujours pris des buts, une stratégie, une philosophie offensive dans ce club depuis extrêmement longtemps. Je pense, une nouvelle fois, comme Leonardo, quand vous affrontez Dortmund, vous devez quand même aussi avoir une forme de confiance parce que le Paris Saint-Germain en termes d'effectifs est au-dessus d'une équipe comme Dortmund. Surtout que Dortmund a perdu son capitaine Marco Reus, donc au moins pour le match aller, ce qui est quand même un avantage pour le Paris Saint-Germain. Donc à Dortmund, il y a beaucoup de mouvements, il y a une équipe extrêmement attractive, mais en termes de très très haut niveau européen, et quand même on s'est félicité donc au moment du tirage au sort qu'il ne tombe pas sur plus fort que ça. Et si vous êtes le Paris Saint-Germain, vous devez passer de mon point de vue.
Merci de remettre dans le bon sens, parce que tout à l'heure j'ai parlé de PSG Dortmund, et effectivement le match aller ce sera Borussia Dortmund, PSG Hervé.
Et il y a Julian Brandt aussi qui s'est blessé ce week-end, donc il ne devrait pas être
le milieu de terrain, ouais,
donc les, quasiment les deux meilleurs joueurs.
Et Reus out.
Oui, quasiment les deux meilleurs joueurs du club qui sont absents. Mais en plus, alors bien sûr, après ce qu'on a connu l'année dernière avec Manchester United, bien sûr tous les raisonnements peuvent valdinguer dans deux semaines. Mais à première vue, c'est quand même un adversaire idéal pour le Paris Saint-Germain. Parce que c'est vraiment un football allemand très ouvert, très décomplexé, qui n'a pas peur de prendre des risques. Et ça veut dire qu'il prend beaucoup de risques. Et quand vous prenez des risques contre Neymar, contre Mbappé, contre ce type de joueur, ou Di Maria qui est en train de voler en ce moment, vous allez être en difficulté, inévitablement. Je trouve que c'est l'adversaire idéal. C'est pas pour rien que Lyon, par exemple, qui ne fait pas une saison magnifique, on a parlé il y a 3 minutes, mais c'est pas pour rien qu'ils n'ont pas perdu un match contre Leipzig. Leipzig qui est en tête du championnat d'Allemagne, enfin dans les premiers du championnat d'Allemagne. À l'époque,
deuxième.
À l'époque, il l'était.
Bayern est en tête.
Non, mais à l'époque, il l'était. Mmh. Donc, ça veut dire que les grosses équipes allemandes, souvent, conviennent bien aux équipes françaises, sauf le Bayern, mais le Bayern est un cas à part, parce que le niveau des joueurs individuellement est déjà peut-être tellement fort, quasiment aussi fort qu'au Paris Saint-Germain, un petit peu moins peut-être, mais quasiment aussi fort qu'au Paris Saint-Germain, alors qu'à Dortmund, vous avez beaucoup de jeunes, c'est une équipe très jeune. Et puis les anciens, ceux qui tiennent un peu les rênes, les Hummels et compagnie, c'est plus le niveau des Hummels qu'on a connu il y a ne serait-ce que 6-7 ans.
Gilles, 32 buts encaissés, c'est comme le 11e Union Berlin. C'est pas sérieux, la défense de Dortmund, elle est parfois liquéfiée. Et puis surtout, pour moi, la donnée importante, c'est que le miracle Haaland a vécu.
Il est resté muet, oui.
Absolument. L'homme frotté, il suffisait qu'il entre pour qu'il marque. Oui. Il suffisait qu'il soit titulaire après pour qu'il fasse gagner le club. Bah là, il joue et puis ça marche pas.
On peut accepter que pour un match, il ne marque pas.
Non.
Ah bon, d'accord.
En tout cas,
c'est du néocolonialisme.
Ça a le mérite d'être clair.
Pour conclure, juste un extrait des déclats de Lucien Favre, l'entraîneur du Borussia Dortmund après match. Depuis mes débuts comme entraîneur, donc là, il parle de l'ensemble de sa carrière, j'ai rarement eu une équipe avec autant de difficultés. Mais bon, quelque chose me dit qu'on va reparler de cette affiche dans les jours qui viennent. Oui, vous voyez pas le rapport. Les
mais
mystères
si,
de l'Ouest.
Malheureusement, on voit. Bravo. Ça veut dire qu'on a l'âge d'avoir regardé ça quand on était enfant. Donc, on n'est pas si jeune que ça.
Allez, pour les plus jeunes, donc le générique mythique de cette série des années 70, Robert Conrad, qui est mort ce week-end, c'était James West. Mais si on vous parle des mystères de l'Ouest, c'est le nom de la série, c'est aussi parce qu'il y a un mystère qui vient de l'Ouest de la France. Pourquoi le Stade Rennais
belle transition,
a-t-il viré, merci, on a bossé.
Ah oui.
Pourquoi le Stade Rennais a-t-il viré son président Olivier Létang ? C'est tombé vendredi et Habib, qui était dans l'émission, Habib Bey, dans le Café des Sports, en a dit juste un mot. Ça vaut la peine d'y revenir quand même, parce qu'on a là un club qui est en gros en train de traverser la meilleure période de son histoire, qui est actuellement sur le podium de la Ligue 1, toujours en course pour conserver le trophée de la Coupe de France. Pourquoi ?
Et avec un dirigeant en plus
qui pourquoi maintenant
ouais, avec un dirigeant qui a fait du très très bon boulot, parce que Létang, on n'enlève rien Létang, assez, Olivier ouais. Létang a ses compétences et ses capacités à travailler et à remettre le Stade Rennais sur les bons rails. Le problème, c'est relativement simple, enfin moi de ce que je sais, c'est qu'il y a animosité absolue entre l'entraîneur et le président, tout simplement.
Le président
Létang, plus Julien Stéphan, qui est donc le fils en plus de l'adjoint de Didier Deschamps, Julien Stéphan. Et ce qui veut dire qu'il a quand même un peu de poids, c'est quelqu'un de connu. Il a amené quand même Rennes sur le titre avec la Coupe de France l'année dernière, ce qui a été une...
Premier trophée depuis 1971.
Oui, une émotion invraisemblable pour François Pinault, hein, le père du président actuel, le président délégué. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, Julien Stéphan a un poids immense dans ce club. Et en face, il y avait Olivier Létang, qui a du poids, parce que le travail qu'il a fait, c'est pas rien, mais beaucoup moins que Julien Stéphan. Donc à un moment, quand il a fallu faire un choix, et ben on a fait le choix de l'entraîneur plus que du président.
Surtout qu'il n'est pas tout seul, Julien Stéphan. Donc lui, il est du coin, et puis il est soutenu donc par la vieille garde rennaise que Olivier Létang avait écartée en prenant les rênes du club, sans mauvais jeu de mots. Donc ça veut dire que tous ces gens-là, depuis plusieurs mois, ils rongent leurs freins. Comme en plus Olivier Létang, c'est pas quelqu'un d'extrêmement facile dans le contact humain.
Les parents, on va dire que c'est pas quelqu'un.
Ouais, non, on peut pas dire ça. Il est parfois un petit peu arrogant et
autoritaire.
Et un peu sûr de lui. Donc il s'est fait beaucoup d'ennemis très vite dans le club. Et évidemment, Julien Stéphan a réussi à surfer un petit peu là-dessus. Donc avec l'appui des anciens, eh ben, ils ont réussi à avoir la peau d'Olivier Létang.
Gilles Verdez.
On parlait de dirigeant. Quelqu'un comme Leonardo est, avec tous ses talents, et c'est pas un défaut, est éminemment politique. C'est-à-dire qu'il s'est louvoyé dans des cercles. Il aurait pu être ambassadeur plénipotentiaire à l'ONU. Quelqu'un comme Olivier Létang, avec toutes ses qualités de dirigeant, n'est absolument pas politique. C'est vrai qu'il est abrupt. C'est vrai qu'il n'a pas tenu compte des spécificités rennaises ni du poids de l'actionnaire. Et à un moment, je pense qu'il s'est senti presque capable de s'en émanciper. C'est-à-dire de faire venir Nzonzi à un salaire tel que, quand ils ont vu ça, 400 000 euros, quand ils ont vu ça, la famille actionnaire...
Toi qui vois des complots partout, parce que je pense quand même que l'actionnaire,
ils
il était au courant.
Ils ont réussi à signer... Pas sur le salaire.
Et donc il a signé son contrat, etc. Et jamais, à aucun moment, donc l'actionnaire n'était au courant de savoir dans quelles conditions signer Steven Nzonzi. Surpris quand même.
Ils ont connu trop tard le salaire exact. Et donc, à ce moment-là, l'actionnaire a dit, on ne peut pas tolérer ça à Rennes, puisqu'il y a une volonté, c'est pas un jugement que je porte sur, il y a une volonté de l'actionnaire de garder, entre guillemets, des salaires un peu rationnels à Rennes, de ne pas injecter au prorata de leur immense fortune. Et là, ça le dépassait, donc ils ont dit non.
Moi, c'est aussi une histoire qui me dépasse. J'étais pas au courant que l'actionnaire était pas au courant des salaires de ses joueurs, mais ce qui me dépasse pas,
je suis sidéré.
A appelé les grands chefs du club, et en gros, c'était soit c'est lui, soit c'est moi. Et puis, ça a été lui. Ça m'a rappelé cette phrase de Bill Shankly, qui disait « Un club, c'est des supporters, des joueurs et un entraîneur, pas un président. »
Mais il y a quand même une part de risque dans cette décision de l'actionnaire. Parce que
Plusieurs parts de risque, d'ailleurs. Non, parce que c'est quand même incroyable, en plein milieu d'une saison.
Les joueurs sont émus. Alors, des joueurs comme Bai Niang, par exemple, le Sénégalais, ont pris ça comme un choc, parce qu'ils ont progressé ces dernières années sous la présidence.
C'est pas tant la décision, finalement, qui nous a surpris, parce qu'on connaissait, donc, évidemment, comme tout le monde, donc, la grande animosité entre les deux, mais c'est le timing. Pourquoi, à ce moment-là de la saison, alors que vous êtes en course pour la Ligue des Champions...
À cause du salaire d'Nzonzi.
Oui, ça doit être ça, à mon avis.
Mais c'est ça l'élément.
Non, c'est-à-dire que c'était complètement inutile de faire ça maintenant. Vous pouviez tout simplement donc attendre, à la limite, si vous êtes les dirigeants historiques Rennais et la famille Pinault, vous pouvez attendre la fin de saison et puis de manière, on va dire, plus douce, vous exfiltrez Olivier Létang et vous donnez plus de pouvoir à Julien Stéphan. Pourquoi faire ça maintenant?
C'est peut-être Nzonzi.
On va surveiller les effets de cette décision. Bon, Rennes n'a fait que match nul avec Brest 0-0 ce week-end et joue demain Belfort en Coupe de France. Merci messieurs, Étienne Moiti, Hervé Penaud, Gilles Verdez, David Calfa, David Finzel, Laurent Salerno. On se retrouve demain pour d'autres aventures.